Bonjour à chacun et à chacune. Nous sommes nous aussi très heureux de nous retrouver avec vous tous ensemble ce matin, ensemble devant notre Dieu. Je voudrais lire avec vous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 5, un paragraphe de l'Évangile. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « Je vais y aller et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, « Va !» Et il va. À l'autre, « Viens !» Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il y a plusieurs façons de parler de la foi, plusieurs approches, plusieurs points de vue pour un élément aussi fondamental pour la vie tout court, tant il est vrai qu'il est difficile de vivre sans croire à rien ou en rien. Pour la vie chrétienne, évidemment, puisqu'elle est elle-même définie comme la vie par la foi en Dieu. Pour la Bible, la foi est à la source et au centre de toute vie véritable. Mon approche ce matin se base sur le récit que nous venons de lire, un récit bien connu des évangiles. Il a été repris d'ailleurs dans un autre évangile que celui que nous avons lu. Au moment où Jésus entre dans la ville de Capernaum, un officier romain vient à sa rencontre pour lui parler de son serviteur qui est tourmenté par de grandes souffrances. Le dialogue qui s'instaure alors entre le soldat et Jésus révèle des choses importantes sur la foi de cet officier. C'est l'objet de notre méditation. L'officier romain qui s'adresse à Jésus a une centaine d'hommes sous ses ordres, d'où le nom, le centenier. Il représente le pouvoir de l'Empire qui s'étend à ce moment-là sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais ce pouvoir romain est un pouvoir généralement assez respectueux des autorités locales, de l'organisation locale, des coutumes locales des pays qui sont ainsi dirigés. On voit dans les récits des évangiles plusieurs officiers romains bien considérés et même appréciés par la population. Celui de notre récit fait partie de ces hommes appréciés. Cet homme vient vers Jésus et s'adresse à lui en l'appelant Seigneur. Une marque de respect, de considération pour un rabbi, un enseignant, un maître ayant l'autorité que lui confère sa connaissance et son aptitude pédagogique à la partager. C'est aussi un témoignage de confiance. La suite du récit va en apporter la preuve. L'officier vient présenter à Jésus une souffrance humaine qui n'est pas sa souffrance personnelle, mais sa souffrance parce qu'il est très attaché à son serviteur. Une souffrance qui n'est pas directement rattachée à son état personnel, mais à celle de son serviteur. Cette souffrance qu'il partage dans une solidarité admirable. Cette souffrance, il vient simplement l'exposer à Jésus, mais de tout son cœur, sans même formuler la demande de l'intervention de Jésus. Vous avez remarqué qu'il expose la souffrance de son serviteur sans même explicitement demander l'intervention de Jésus. Il expose son besoin. Il expose un besoin de secours. Et nous avons là déjà, dans cette démarche, une richesse qui s'exprime dans la sensibilité de cet homme, dans sa communion et dans son affection pour son serviteur et dans sa confiance à l'égard de Jésus. Voilà un officier romain qui fait le lien entre son serviteur et Jésus. Et c'est déjà en soi une belle leçon d'amour du prochain, de sensibilité à l'égard des bienfaits de ce partage et de confiance en Jésus qui est là. Un besoin de secours. Et je tire simplement de cette approche le fait que on peut s'adresser à Jésus sans explicitement formuler une demande précise, mais simplement en lui exposant la souffrance, le besoin dont nous sommes témoins et à laquelle nous sommes attachés parce que nous sommes attachés à la personne qui souffre. Il y a là une grande liberté de partage de ce qu'on ressent avec Jésus-Christ. Un besoin d'aide, un besoin de secours. Jésus entend pleinement cette parole du centenier et il y répond directement par sa parole d'écoute et d'action. Je vais venir chez toi et je guérirai ton serviteur. Et voilà que l'officier reprend la parole. Il aurait pu dire simplement « merci » et accompagner Jésus. Ce qu'il dit témoigne de plusieurs choses, là aussi, importantes. Témoigne d'abord de sa connaissance de la tradition juive, qui interdit à un juif d'entrer chez un non-juif sous peine d'impureté. Témoigne de son humilité. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Témoigne de sa confiance en Jésus, sa personne et sa parole. La base de la foi est son contenu. Confiance en Jésus et en sa parole. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Le commentaire et l'exemple décrit par l'officier nous parle aussi de façon très claire. Il décrit le fonctionnement classique et traditionnel de l'armée. Il sait son grade, il est probablement capitaine, si on devait faire l'équivalent d'aujourd'hui. Il parle de ses supérieurs et il parle de ceux qui sont sous ses ordres. C'est l'organisation militaire classique. La place de chacun est bien définie par son grade et les responsabilités qu'il doit assumer également. Dans ce système, le grade de l'officier définit les droits et les devoirs de chacun, le grade de l'officier ou du sous-officier ou du soldat. Pour l'officier, le devoir de faire ce que le supérieur demande, puisqu'il est soumis à son autorité. Et le droit de faire faire ce qu'il demande aux soldats qui sont sous ses ordres. Le système fonctionne quand tous ces éléments fonctionnent chacun dans son domaine parfaitement. Sans ce principe basique, l'armée ne peut pas fonctionner. Je rappelle aussi que le grade implique une formation et un apprentissage. Si je me souviens de mon service militaire, qui remonte quand même à pas mal d'années, j'ai expérimenté qu'on ne peut apprendre à commander qu'en ayant appris à obéir. Mais je ne suis pas le seul à avoir appris cette vérité de base. Voilà une situation décrite en toute simplicité par cet officier qui dit à Jésus : ce n'est pas la peine que tu te déranges jusqu'à venir dans ma maison, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il appuie cette confiance en Jésus de l'exemple, de ce fonctionnement qu'il connaît dans l'armée. Valeur, force, efficacité de la parole de celui qui a l'autorité pour que s'accomplissent les choses qu'il demande. Cette parole vient de celui qui la prononce, bien entendu, c'est une vérité de la palice, et donc de quelqu'un qui a une qualification et une autorité attachée à ce grade et à cette qualification. De sa position par principe, de sa qualité au niveau de la valeur et de l'acte à accomplir et de l'acte qui s'accomplit. Valeur du commandement et valeur de l'obéissance, de la parole à l'acte. Il dit et la chose arrive. Notons que à chaque échelon, il y a ces deux côtés, celui du supérieur et celui qui est sous ses ordres. Et en remontant, on arrive bien sûr, du point de vue de l'organisation de la société au roi ou à l'empereur ou à celui qui a le commandement général du pays, et puis dans l'ordre de ce qui nous occupe, on arrive bien sûr à Dieu. Le centenier ne doute pas du fait qu'il va accomplir ce qui lui est demandé, que Jésus aura pleine efficacité dans ce qu'il a promis de faire. Suivant le même principe qu'en tant que soldat, il ne doute pas du fait que ses soldats ou son serviteur vont chacun faire ce qu'il leur est dit, ce qu'il leur est demandé de faire. Ainsi donc, de la parole et de l'action de Jésus en faveur de l'homme qui souffre, ainsi donc de cette confiance dans cette parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus l'a dit, je vais venir et je le guérirai. Donc ça se fera, parce que Jésus est Jésus, parce qu'il a l'autorité et le pouvoir de faire ce qu'il dit. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Une œuvre de puissance, de guérison et de vie va s'accomplir en faveur de ce serviteur souffrant. Et cette parole de Jésus et cette action de Jésus, réelle, historique, comme beaucoup d'autres accomplis pendant son séjour terrestre, sont l'image même de ce que Jésus est venu accomplir pour les humains. Il est venu leur apporter la vie, ou leur renouveler la vie, ou leur redonner l'espoir de la guérison et de la vie rétablie. La foi, c'est cette confiance totale en la personne, et c'est cette confiance totale en sa parole. Confiance totale en Jésus et confiance totale en ce qu'il dit. Parole de Dieu, parole créatrice de vie et révélatrice de cette vie. La parole de Jésus. Et Jésus lui-même vient d'entendre une parole de ce centenier. Et cette parole, nous dit le texte, l'étonne. Pourquoi ces paroles du centenier étonnent-elles Jésus ? Jésus admire une foi aussi remarquable. Alors, nous allons essayer de nous interroger sur le pourquoi de cet étonnement et de cette observation de Jésus qui dit, même en Israël, « Je n'ai pas trouvé une foi aussi remarquable. » En quoi cette foi est-elle aussi remarquable ? Quelles sont les caractéristiques de cette foi ? Dans la première approche de notre lecture, nous voyons que cette foi se situe dans un schéma où ce qui est dit s'accomplit, sans hésitation. Et on ne perçoit pas le moindre doute sur le fait que ce qui est dit, ce qui est demandé, va s'accomplir. Alors, est-ce qu'on pourrait déduire de cela qu'une foi remarquable est celle qui ne laisse aucune place au doute ? La question mérite d'être posée et analysée d'un peu plus près. Est-ce que c'est en tout ou rien ? Une foi remarquable, c'est une foi qui ne doute pas, point. Voilà. Donc il faut viser une foi dans laquelle il n'y a aucune part de doute. Alors, si je m'arrêtais là, et si je vous disais, est-ce que vous êtes d'accord avec ces dernières affirmations ? Vous connaissez, la plupart d'entre vous, la parole de Dieu. Est-ce que vous répondriez rapidement quelque chose ? Ouais, je ne veux pas vous faire passer un interrogatoire. Oui, oui, il y en a qui ont envie de répondre, allez-y. Est-ce que c'est comme ça ? Non. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous savez quelle est la première image qu'on trouve dans un dictionnaire ? Alors, je n'ai peut-être pas consulté le bon, mais la première image pour illustrer ce qu'est la foi, le dictionnaire que j'ai consulté déclare « C'est la foi du charbonnier. » La foi du charbonnier. Alors, je pense qu'il s'agit de celle que je viens de décrire comme absolument dépourvue de tout doute, de toute hésitation. Alors, heureusement que je médite sur la foi du centenier, parce que je préfère quand même la foi du centenier à la foi du charbonnier. Pourquoi n'est-il pas exact de dire que la foi remarquable de cet homme ne peut pas être définie comme une foi dans laquelle il n'y a aucune part de doute ? Parce que nous avons à la fois l'expérience humaine et la réalité de l'Écriture qui nous montre bien que tout être humain, même celui qui est le plus confiant dans quelque chose ou dans quelqu'un, traverse des moments où sa confiance est ébranlée, où le doute se mêle à la foi, où la confiance est perturbée par des éléments qui font que nous avons qu'à relire les psaumes si nous en doutions. Mais on va revenir à cela dans quelques instants. Je voudrais juste ici, avant de creuser un peu cette question, faire une distinction entre la foi et la conviction. Parce que ce qu'exprime ce centenier, c'est des éléments de foi, bien évidemment, et il exprime aussi une conviction personnelle qui est rattachée à sa fonction, à son expérience de l'exercice de ce qu'il fait dans l'armée. La conviction a un caractère plus personnel et plus subjectif que la foi. La foi s'appuie sur des données, des éléments qui ont un certain caractère d'objectivité, c'est-à-dire que d'autres peuvent vérifier sur quoi s'appuie notre confiance. La conviction, elle, c'est de la foi mêlée aussi de beaucoup d'éléments de notre tempérament, de notre culture, de notre façon de réfléchir et de réagir. La base de la foi est plus objective que la base de la conviction. On se forge des convictions sur la foi, c'est bien, c'est normal, mais sur les mêmes bases de foi, on peut aussi avoir des convictions différentes sur certains points. Nous en savons quelque chose. Pour ce qui est de la foi, oui, des questions surgissent. Il n'est pas de foi qui soit totalement insensible à la possibilité d'être ébranlé par le doute. Connaissez un grand des serviteurs de Dieu qui est venu dire à Jésus son doute, ou plutôt qui a fait dire son doute par ses serviteurs. Vous le connaissez, c'est Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a envoyé dire à Jésus ? Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Et c'est Jean-Baptiste, hein ? Et Jésus a donné à ceux qui venaient lui poser cette question, allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Allez être témoin de cette base de la foi. En d'autres lieux de l'Écriture, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, la foi est présentée comme un combat. Combat, le bon combat de la foi. Un cheminement, une valeur en développement, une valeur qui peut être forte ou faible, qui peut grandir ou s'amenuiser. Telle est la vraie foi décrite dans les éléments de l'histoire et de l'Évangile. Votre foi fait de grands progrès, dit l'apôtre à propos de certains chrétiens. Seigneur, augmente-nous la foi, déclarent les disciples. La foi est éprouvée et elle peut réussir l'épreuve en étant fortifiée ou elle peut être ébranlée par l'épreuve. Certains même sont allés jusqu'à l'abandon. Et Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et l'apôtre parle de certains dont la foi a fait naufrage. Dans l'Écriture, la foi est souvent accompagnée de qualificatifs, ce qui prouve qu'elle est vivante. Voilà plutôt la foi. Alors revenons à notre histoire. En quoi la foi exprimée par le centenier devant Jésus est-elle remarquable ? Même en Israël, dit-il, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Cet épisode nous ramène à la base, à la simplicité de l'essentiel, à la simplicité biblique de ce qui est absolument fondamental. Ce n'est pas une foi exempte de doute. c'est une certitude sur des objets bien précis. Si je dis le centenier ne se pose pas de questions, est-ce exact ? Non. Est-ce la foi qui ne se pose aucune question qui est déclarée remarquable ? Non. L'officier ne se pose pas de questions sur la personne de Jésus. C'est comme cela qu'il faut définir le caractère remarquable de la foi. C'est par l'objet de la foi. L'officier ne se pose pas de questions sur la personne de Jésus auquel il applique simplement le principe normal du bon fonctionnement de l'armée. C'est dans une logique de reconnaissance de l'autorité de Jésus, de la qualité de sa parole et de son efficacité totale, sur laquelle effectivement il n'a aucun doute. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. La foi du centenier ne s'appuie pas sur ce qu'il désire, mais sur ce que Jésus a dit. Je répète, la foi du centenier ne s'appuie pas sur ce qu'il désire de tout cœur pour son serviteur, pour lequel il a de l'affection et dont il partage la souffrance. La foi du centenier s'appuie sur ce que Jésus lui a dit. Je viens et je vais guérir ton serviteur. C'est cela, la foi exemplaire. Nous sommes invités à nous munir du bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que l'ennemi s'emploie constamment, depuis les origines, à mettre en doute la parole de Dieu. Et notre foi, elle est fondée, attachée inébranlablement sur Jésus et sur la parole de notre Dieu. Sur Jésus et sur sa parole. Nous avons sa parole. Dieu a dit, Jésus nous a dit. On peut avoir la foi et connaître des questionnements et même des doutes, mais on peut aussi garder une foi qui ne doute pas sur l'essentiel, qui ne doute pas sur Jésus, qui ne doute pas sur la parole de Jésus. Dieu, sa parole, son amour, sa bonté, son salut. L'encre de la foi, ou plutôt la foi comme l'encre qui tient le navire de notre vie. Je vais conclure rapidement. Nous nous proposons donc comme exemple pour fortifier notre propre foi, la foi de ce centenier. Une belle foi, une foi remarquable. Je voudrais, en conclusion, lire la fin du psaume 73. Dans le début de ce psaume, le croyant exprime le questionnement que lui pose la réussite des méchants. Et il dit lui-même qu'il a failli voir son pied déraper à cause de la prospérité des méchants. Et il dit ceci à la fin du psaume. « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, dit le croyant à son Dieu. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je vous invite à nous préparer au partage de la Sainte Cène en chantant le cantique « Chef couvert de blessures ». Et puisque nous portons à nouveau nos regards sur l'objet de notre foi, sur Jésus, notre Sauveur, nous allons le considérer dans ses souffrances, le prix payé pour que nous passions de la mort à la vie. Chantons toutes les strophes de ce cantique « Chef couvert de blessures ». Je vous invite à vous le